Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Dans le cadre de notre chronique Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui, je reçois aujourd'hui Jacques Barca. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu as un parcours un petit peu atypique. Alors, est-ce que tu peux m'exposer ton parcours scolaire pour commencer ?
Un parcours scolaire. Et j'ai fait mes études secondaires dans le nord de la France, à Valenciennes. J'étais littéraire au départ, français, latin, grec. Ça marchait bien. J'aimais bien en plus. J'étais littéraire et pas du tout branché mathématiques parce qu'en fait, j'estime qu'on nous donnait des profs de remplacement. Donc, je n'aimais pas les maths. Je croyais ne pas aimer les maths. Et j'ai fini mon cursus bac philo. Pour assurer quand même ma position déjà au départ. Donc j'ai fait un bac philo, mais j'avais découvert entre-temps avec un bon prof, très culturel en même temps, il m'avait fait aimer les mathématiques, j'ai dit je veux me brancher sur les mathématiques, les maths, la physique, la chimie, que je n'ai pas fait en seconde, en première, en terminale. Mais c'était un peu lourd. Comme j'étais passionné d'aviation, je me suis mis dans une école de pilotage aéronaval, et puis j'ai été confié à l'armée de l'air, comme tous ces gens-là, j'ai piloté, début d'initiation au pilotage sur les Fougas Magister, qui était à l'époque l'avion de la patrouille de France. J'ai donc marché sur ces engins, et j'aurais bien voulu continuer, mais j'avais des soucis d'oreille. Je faisais répéter les tours de contrôle, j'avais un spectre sonore qui n'aimait pas les écouteurs, donc j'ai été obligé d'arrêter, donc j'ai quitté l'armée. J'ai fait un DUT, les tout premiers DUT de mécanique qui existaient à l'époque, qui venaient d'être lancés, spécialisation soudure à Paris. J'ai ensuite commencé à travailler dans la sidérurgie, là où un certain président est allé se montrer à la Grande Range, la plus grande aciérie de France, mais à l'époque elle marchait très très bien. Et puis ça c'était plus pour me faire de l'argent, et puis en même temps j'ai appris des choses. Et puis ensuite j'ai mené un peu ma vie vraiment individuelle, quoi, de réparer des voitures, donner des cours de maths, c'était aussi... J'oublie. C'est qu'en quittant l'armée, j'ai repassé le bac en mathélème, ça s'appelait. C'est-à-dire la reconversion du bac philo en bac mathélème. On repassait pas toutes les unités de valeur, bien sûr, on ne passait pas géographie, tout ça. Mais maths, physique, chimie, oui. Et je l'ai donc obtenu, ce qui fait que j'ai deux fois le bac terminal, quoi. Version littéraire et version scientifique. Et puis j'ai fait donc le DUT de mécanique. Et puis j'ai bossé en Lorraine, donc sidérurgie. Je m'occupais de l'installation anti-pollution géante des convertisseurs. Donc après j'ai quitté. J'avais pas trop envie de rester dans ces industries géantes. Donc j'ai mené ma vie un petit peu individuelle de réparateur de voitures ou reconstructeur de voitures, ça je continue. Un cours de maths, c'est une passion de donner des cours de maths de rattrapage, quoi. Le nombre d'élèves à qui j'ai fait passer le bac après, je ne l'ai pas inventorié, mais c'est énorme. Il y a même des gens que j'ai pris à sortie d'atelier de mécanique qui voulaient refaire des études et qui, petit à petit, j'ai mené au bac technique, et qui maintenant pourrait me donner des cours de maths, quoi, sans travailler au CNRS. Il y en a un des deux comme ça. Puis j'ai préparé, c'était aussi une autre version de la passion, des voitures pour des gens qui traversaient le Sahara. Alors à l'époque c'était les Peugeot, les Pigeot comme on disait là-bas. Et j'en ai préparé un paquet, puis après j'en ai eu marre de préparer, j'ai voulu aller voir moi-même, donc j'y suis allé. Donc j'ai fait quelques voyages traversés de Sahara. Et puis j'ai eu aussi un accident grave, qui m'a arrêté pendant 4-5 ans, quoi. Fallait que je me calme un peu, j'ai perdu 3 cm de taille et j'ai perdu mon oreille droite définitivement. Et puis après, je me suis mis à donner des... Alors j'avais le but de donner des cours de mécanique au grand public. Et j'ai commencé à le faire dans les foyers culturels de Tours. Oui, j'avais quitté Paris pour venir à Tours, ça c'est un épisode. Et petit à petit, j'ai donné donc de ces cours. La chambre des métiers m'a appelé, ayant un prof dont les élèves ne voulaient plus, il m'a demandé si je pouvais le remplacer pour des stages. Et je l'ai fait, et puis ça s'est bien passé. Alors pendant quelques années, j'ai fait des stages, à l'époque des stages bar, d'ailleurs ça s'appelait. J'ai fait des stages moto, pour des gens qui n'étaient pas moto, qui étaient même des mécano-voitures, mais qui ne connaissaient pas les motos japonaises, par exemple. Et puis on m'a demandé de faire des brevets de maîtrise pendant pas mal d'années, jusqu'en 84, tout ça. J'ai fait des brevets de maîtrise le week-end pour des mécanos, en fait, qui voulaient passer un brevet de maîtrise. Et puis, d'ailleurs, c'est un de mes anciens élèves qui était resté, je ne sais pas s'il y est encore, à diriger le service. Et puis, après, bah, j'ai voulu m'adresser qu'au grand public. Alors, j'ai fondé le Centre Galil, qui a toujours ce nom-là. Enfin, ça s'appelait Galilée au début. En honneur du savant dont j'étais admirateur, le savant Galilée. Ça s'appelait Galilée, c'était un atelier associatif, c'est-à-dire les gens pouvaient venir y réparer leur voiture eux-mêmes, sous ma surveillance, et puis je faisais des stages. Au début, c'était toute voiture, mais il y avait évidemment des deux chevaux parmi ces stages. Puis les deux chevaux étant une de mes passions, je n'ai pas hésité. Puis petit à petit, je me suis branché surtout sur les deux chevaux, puis la demande était énorme. Les clubs de chevaux s'installaient partout, en France comme en Allemagne, comme en Italie, en Suisse, en Angleterre, partout. Donc je n'ai plus fait, à partir de peut-être 92, que des stages de chevaux, qui m'accaparent pas mal. Il y en avait encore la semaine dernière. Et donc, je me suis fait connaître dans le monde de la deux chevaux, pas qu'en France, d'ailleurs en Allemagne. Et puis j'ai repris aussi, entre-temps, une autre passion parallèle, l'histoire. C'est en 94-95 que je me suis remis en fac d'histoire, tout en continuant mes stages. Et j'ai fait donc histoire, alors là, à Tours. J'ai donc fait Doc 1, Doc 2, comme il y avait à l'époque, licence. Et puis pour attaquer le master, je voulais faire un master sur Galilée, on m'a dit. On dit non, ça va être trop dur, il y a eu trop de choses de dites sur Galilée, vous aurez beaucoup de mal à trouver du nouveau. Et donc du coup, j'ai trouvé un autre savant, enfin, j'ai accepté un truc que personne ne voulait faire, c'était un ami de Descartes, un savant oublié complètement, de Blois, qui correspondait avec Descartes, qui collaborait avec lui, et qui était aussi costaud que lui en mathématiques, et en sciences et en astronomie, c'était un fan d'astronomie, et aussi ce que ne faisait pas Descartes, grosse particularité, petit noble comme lui, catholique, vivant à Blois, ville royale, il avait appris à travailler de ses mains, ce qui normalement était exclu pour un noble, sauf pour le plaisir. Alors c'est ce qu'il avait fait, et j'ai démontré dans ma recherche sur dans mon master, là, j'ai démontré qu'il ne pouvait avoir été formé que par ses voisins protestants, horlogers de pointe, qui était toute une caste d'horlogers qui était à Blois, dont la famille Cuper, qui c'est eux qui l'ont formé, étant tout môme, à la pratique manuelle d'horlogerie de mécanique fine, et aussi aux mathématiques. Ça ne peut être qu'eux qui l'ont. Il n'y avait personne pour le former là-bas. Et qu'il était devenu aussi pointu que Descartes sur le domaine scientifique. Et que cet homme a construit de ses mains ce que Descartes voulait faire à Paris, Amsterdam, depuis 20 ans. Une machine pour tailler les nouvelles lunettes astronomiques que Galilée... Enfin, en prétend Galilée l'avait inventé, en fait, il l'a un peu volé, il l'a perfectionné, et taillé automatiquement les lentilles à la forme hyperbolique voulue. Et lui, il a conçu la machine, et j'ai des preuves, en épluchant tout le courrier de Descartes et tout ça, j'ai des preuves que cette machine a été construite, a marché, qu'il est même venu vérifier à Blois si ça marchait. Et cette machine, alors tous les écrits de ce savant ont disparu, presque tous. Il en reste 3-4. Tous ces manuscrits ont été volés, certainement. Et on en retrouve dans les archives de Robert Val, il n'y a même pas 50 ans là, qu'on a retrouvé. Et ça a été d'ailleurs publié avec 300 ans de retard, un traité des angles solides, un truc très très mathématique. Et ce savant, presque tout a été volé, y compris évidemment la machine. J'étais persuadé, moi, qu'elle n'était pas en bois comme Descartes avait voulu au départ, qu'elle était en métal. Et j'ai retrouvé l'inventaire post-mortem de sa maison et de sa propriété dans la campagne près de Blois, où il y avait bien marqué la grosse machine de fer pour les lentilles. Mais par contre, elle a disparu. Je l'ai reconstituée d'après tous les courriers de Descartes et des autres savants à son sujet. Je finis par comprendre comment elle marchait. Bon, j'ai fait une proposition de bâtie de machine que j'ai présentée donc sur ce master. Par contre, je n'ai encore jamais eu le temps de la construire en maquette. Ça viendra.
Très bien. Donc un parcours scolaire atypique, un parcours professionnel atypique.
Oui.
Et puis, donc, plein de passions. On a bien compris qu'il y avait les deux chevaux et tout ce qui touchait à la mécanique.
Alors, j'ai oublié de dire qu'en 2004, en même temps, je venais juste de soutenir mon master en 2003, j'ai fondé avec un autre, à partir d'un autre journal, Deux Chevaux. J'ai fondé Deux Chevaux Experts, ça s'appelle. C'est un journal qui n'est que technique, qui parle pas des potins, un truc comme ça, qui parle que de technique, pour le grand public, et qui continue aujourd'hui. Hein. Je suis arrivé au numéro 42, là, et qui a maintenant 9 à 10 000 lecteurs, je crois, autour de 9 000 lecteurs, qui est dans tous les kiosques de France, d'ailleurs.
Donc on va revenir, donc tes passions, on a bien compris pour la Deux Chevaux, mais tu es surtout à l'initiative donc, du Centre Galil, qui organise des conférences, débats grand public sur des sujets scientifiques, techniques et sur l'histoire des sciences. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe?
Alors oui, j'ai oublié, en 2004 aussi, c'était l'année des gros démarrages, je venais de finir ce master, côté histoire de, et c'était un master d'histoire des sciences en fait que j'ai fait. Et j'ai lancé, c'était un vieux projet que j'avais essayé de lancer dans les années 80, mais il n'y avait pas du tout, c'était pas du tout à la mode, quoi. De parler au grand public d'histoire des sciences, c'était pas du tout la mode, alors que là, ça commençait à venir. J'ai lancé les causeries scientifiques, ça s'appelle comme ça. Pourquoi causeries? Ben, c'est des conférences où on a quand même le droit de m'interrompre, quoi. Il peut y avoir des échanges, dans la mesure où on n'exagère pas. Et donc, j'ai lancé ça en 2004. Ça avait lieu à Tours Centre, au Saint-Germain, avenue de Grammont. Puis après, en face, c'était au Bombex, ça s'appelait, ça a changé de nom maintenant. Et je faisais donc... Alors, c'était des fois hebdomadaire, des fois, il y avait un trou. C'était pas régulier, mais c'était presque hebdomadaire. Et ben, j'ai construit tous les... J'ai commencé par Galilée, qui était le... J'avais donné le nom de mon centre à Galilée, donc il est raccourci en Galil maintenant. Et puis après, ben, je me suis occupé des savants de l'Antiquité, de Kepler, de Copernic, Newton aussi. Par contre, je ne fais pas encore de conférence sur Newton. Ça viendra, mais c'est très gros, c'est énorme. Personnage vraiment spécial. Et puis sur les recherches de la vitesse de calcul de la vitesse de la lumière, où il y a eu des génies au 19e siècle qui ont réussi à la calculer, en laboratoire. Et vitesse de la lumière, la relativité vue par, exposée par Einstein. La relativité restreinte, hein. Je ne ferai pas de conférence sur la relativité générale. C'est beau, pour le grand public, c'est hors gamme. Et puis en plus, moi je ne suis pas non plus un spécialiste de la relativité générale. Hein. Je n'ai pas cette prétention. Et donc la relativité explicable au grand public, le principe avec les chemins de fer et tout ça, bien connu. Et puis la relativité d'ailleurs, dont presque personne ne sait que c'est par hasard qu'on a découvert. En voulant démontrer quelque chose, on a trouvé le contraire, en croyant que la vitesse de la lumière se rajoutait à celle du véhicule qui la portait, comme le train. On a trouvé que c'est, par analyse, on a trouvé que c'était pas vrai, que la vitesse de la lumière était la même par le récepteur que par l'émetteur. Et que du coup, ben, il a fallu revoir toute la théorie de Newton finalement. Et que le temps et la distance étaient des choses relatives, hein, d'où le nom. Et puis après, Einstein a généralisé ça à tous les mouvements, même avec ses accélérations et tout ça. Galilée avait déjà parlé de relativité. Mais relativité, des espaces qui bougent de façon à vitesse constante dans un espace fixe, qui se comprend assez bien. Donc voilà, la relativité, il y a... Alors, j'ai pas toute la liste sous les yeux, mais...
Non, mais je sais que la liste est longue.
Oui. Il y a les sons et la musique, parce que je suis aussi... Il y a le Big Bang, pour finir. Le Big Bang, alors maintenant, il y a Big Bang 1, Big Bang 2, avant la guerre et après la guerre. Et comme j'ai fait beaucoup de musique, de flûte traversière, chant et tout ça, que j'ai fait partie pas mal d'ensembles à Tours, et j'ai même fait une tournée au Mexique avec l'un d'entre eux. Et puis j'ai fondé un groupe, un octeur vocal de Tours qui a marché pendant 7-8 ans. Je fais une conférence sur les sons et la musique, mais je ne vous fais pas de musique, je vous explique que c'est des fréquences, comment construire une gamme et tout ça, en fait, tout le jeu d'harmonie. Partie scientifique de la musique.
Très bien. Et pour plus d'informations sur le Centre Galil, rendez-vous sur www.galil-jbarca.com et sur le site de Cité Radio où nous retrouverons toutes ces coordonnées. Jacques, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
Eh bien, merci, à très bientôt.
Cité Radio.